Vous écoutez
RMC.
RMC,
le cri du cœur du super Moscato Show.
C'est un personnage qui a accompagné le Moscato Show depuis ses débuts, il y a une vingtaine d'années, Claude Onesta dans le super Moscato Show. Salut Claude.
Salut.
Comment ça va, le
bonjour.
Ça va, mais ça. On m'a dit, que tu avais le droit à des vacances. Change pas de métier.
Moi je travaille pour les. Moi, je suis un mec de gauche. Hein. Moi, j'ai 35 heures. Attends.
Et les RTT, les RTT. Alors, Claude, évidemment, avec le palmarès long comme le bras avec l'équipe de France de handball, mais aussi l'ancien manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport. Alors, c'est un titre. Un peu pompeux, hein, Claude, mais qui est très simple. Tu as été chargé d'une mission très claire de faire performer les équipes de France Olympique à Paris 2024. Et tu racontes ça dans un bouquin qui s'appelle « Performer la méthode ». Et alors, je vais te donner le pitch et tu me dis si tu es d'accord avec moi. On pense que préparer les JO à domicile à Paris, c'est un régal, alors que ça a été tout le contraire. C'est un peu ce que tu racontes dans ce bouquin.
Oui, parce que les gens n'ont vécu des jeux que les moments enchantés et magnifiques de la compétition. Nous, on a vécu tout le reste en coulisses et tout ce qu'il a fallu faire avant pour pouvoir s'enthousiasmer après.
Alors, tu dis notamment que tu as fait face à des résistances énormes que tu détailles dans le livre et peut-être auxquelles tu t'attendais pas. Alors, pour faire juste un petit retour chronologique, tu es chargé par Laura Flessel, ministre des Sports, de faire un état des lieux du sport olympique français à la sortie des Jeux de Rio 2016. Ça aboutira quelques années plus tard à la création de l'Agence nationale du sport qui existe toujours du coup. Mais tu expliques que pour mettre en place tes idées, donc tu t'es heurté à de nombreuses résistances. Alors je donne juste un exemple parce que il est drôle. On connaît le personnage Jean-Luc Rouget, Vincent, donc personnage très important du sport olympique français, champion du monde de judo, le premier français champion du monde de judo et président de la Fédération française du judo, très influent. Et donc, tu expliques dans une réunion avec tous les présidents de Fédé qu'on va faire différemment, qu'on va changer la méthode et qu'il va se passer des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Puis Jean-Luc Rouget se lève, il te dit, tu sais, tous tes trucs, on n'en a rien à foutre. Le seul point qui nous intéresse, c'est le chiffre en bas à droite. C'est-à-dire combien on va toucher, en gros. Ah ouais. Ça, c'est réel.
Oui, non, mais c'est réel. Et surtout que moi, je connaissais tous ces gens-là, je les connaissais pour les avoir côtoyés dans le champ sportif. Donc, j'étais un emmerdeur, mais quand même un emmerdeur de la famille. Je peux pas dire qu'on ait eu à ferrailler, puisque aux élections qui ont suivi, il s'est fait débarquer. Donc, je l'ai pas eu en face de moi, mais ben, d'une certaine façon, l'important c'était ni lui ni moi, c'était le judo et les résultats du judo.
Mais ce qui peut être intéressant, c'est est-ce que finalement la performance, elle est forcément liée aux investissements pécunier qu'il faut faire, parce que ça n'a pas été que votre rôle. Il y a eu, au-delà de donner de l'argent, plus d'argent, il y avait aussi la construction d'une méthode de s'entraîner différemment, de rassembler aussi différemment. Il y a des choses qu'on peut faire qui n'est pas uniquement une ligne avec plusieurs zéros.
Trouver le pharmacien qui va bien, trouver des produits où tu te fais pas choper. C'est pas facile tout ça quand même.
Non, mais franchement, je pense que le monde du sport, c'est facile de dire si j'avais plus de moyens, j'aurais plus de résultats. Moi, pour avoir bien analysé les situations, je sais qu'il y a des gens, on pouvait leur doubler les moyens, ils n'auront pas plus de résultats parce qu'ils n'ont pas de savoir-faire, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de culture, Donc ça veut dire qu'il y a un moment où il faut être capable de bien analyser quels sont les éléments qui projettent la défaite et essayer de travailler dessus pour s'en éloigner. Et donc, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire avec chacune des fédérations. Encore une fois, moi, je suis pas spécialiste dans tous les sports, loin s'en faut. Mais par contre,
on a une expertise de la victoire quand même.
Oui, l'expérience que j'avais m'identifiait un peu ce qui marche et ce qui marche pas bien. Et donc, de temps en temps, on a beaucoup mobilisé de moyens, d'outils, on a investi sur beaucoup de choses nouvelles. Donc, ça veut dire qu'on a mené beaucoup plus de qualité autour des athlètes. Par contre, de temps en temps, on soulevait le tapis et on montrait la poussière que tout le monde avait planquée dessous et qu'il fallait sortir pour véritablement espérer progresser.
En gros, si on parle de l'aspect budgétaire, il y avait des subventions ou autres, hein, qui, pour toi, soit ne servaient pas à grand-chose, soit compensaient un déficit structurel, et du coup, ça donnait une usine à gaz un peu handicapante, que tu as voulu un peu remettre à zéro. Et donc, tu as dit à des présidents de Fédé ou à des structures, ouais. Bah non, ça c'est fini, et puis maintenant on va fonctionner comme ça. Alors, tu expliques dans le bouquin que tu y allais avec ton caractère, c'est-à-dire frontal, combatif, quand parfois il faut peut-être être un peu plus rond et consensuel.
C'est pas bien, Pierrot, de parler de Madame Ernotte comme ça, quand même, c'est les concurrents. C'est pas joli, ça, Pierrot.
Alors, si je résume, alors bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu as identifié trois axes pour 2024. Alors, ce que tu appelles les cellules de performance, c'est-à-dire que vous avez créé des cellules autour des potentiels d'athlètes médaillables sur qui on a investi. Il y a aussi des fédérations qui ont été priorisées par rapport à d'autres, et puis un plan pour les coachs pour à la fois améliorer les compétences, mais aussi se renouveler, c'est-à-dire faire venir des compétences extérieures. Et il y a quelque chose qui n'est pas passé, c'est que parfois tu as fait des choix qui étaient en contradiction totale avec la culture française, et notamment en s'inspirant de ce qu'ont fait les Britanniques à Londres, c'est-à-dire cibler les plus forts potentiels et les soutenir à fond, ce qui n'est pas trop dans notre culture. On avait plutôt une culture à élargir une base et essayer et espérer qu'en émergent des forts potentiels.
Comme je n'étais pas fou et que je connaissais quand même le milieu, j'ai veillé à ne pas enlever à tous pour ne donner qu'à l'élite. Puisque 75% des moyens qu'on a distribués aux sportifs, même à la fin des Jeux, étaient allés à des sportifs de haut niveau, mais qu'on peut considérer comme non médaillables au niveau international. Donc ça veut dire qu'on n'a pas déshabillé les uns pour donner aux autres. On est allé chercher des budgets complémentaires pour mieux gérer nos champions ou ceux qui étaient en passe de le devenir. Et ça, je pense que le système français est plutôt bien organisé pour prendre un gamin qui a...
Il y a moyen de faire du black là-dedans.
Non, pas trop, mais
un peu quand même.
Bah, il y a ceux qui savent le faire sans se faire prendre, c'est tout. Mais
bah, nous, on a des experts. Hein.
Non, mais ça marche bien, Rudy, le black, ils savent faire.
Moi, j'ai une question par rapport à l'organisation du sport. Alors, Pierre le disait, l'ANS a été créée en prévision de Paris 2024. Aujourd'hui, on se retrouve avec trois institutions que sont le ministère des Sports, le CNOSF et l'ANS. Et quand on sait que notre pays est quand même très administratif et avec des lourdeurs, moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que ces trois entités ne se marchent pas un peu... Exactement, se marchent pas un peu sur les pieds, que finalement, ça fait beaucoup d'administration, et est-ce que ça, c'est pas aussi un frein aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait pas simplifier ça pour qu'on puisse viser encore mieux, parce qu'on a Los Angeles 2028, on a Alpes 2030. En tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que alourdit encore les choses. Est-ce qu'il n'y a pas une institution en trop ou est-ce qu'il n'y a pas des fusions à faire?
Alors, les fusions, c'est tout compte fait ce qu'on avait précédemment. Donc, on avait un ministère qui décidait de tout ou de pas grand-chose. On avait un CNO qui était le représentant du sport olympique et à ce titre-là qui est en charge de veiller à organiser les compétitions.
Ils servent,
mais je pense que ce qu'on a créé, c'était au travers de l'agence. Moi, j'avais 30 personnes avec moi qui tous avaient été ou champions du monde dans leur parcours d'athlète ou dans leur parcours de coach. Donc, globalement,
privatiser tout ça.
Donc, ces gens-là savaient de quoi ils parlaient. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous me demandez mon avis, s'il y en a un en trop, ben, c'est celui qui n'est pas productif.
On t'entend, oui.
Bon, et donc, celui qui n'est pas productif aujourd'hui, c'est celui...
Qui est politique. 100% oui, mais... politique.
Non, mais il y a encore une fois, le sport, c'est quoi? Le sport, c'est pratiquement 20 millions de personnes qui œuvrent, je dirais, toutes les semaines. Donc, forcément que c'est complexe et c'est multiple. Mais le sport de haut niveau, il répond à des logiques spécifiques. Le sport initial, parce que le sport de haut niveau, les gens ils tombent pas des nuages pour faire des champions. Ils sont bien nés dans des petits clubs avec des éducateurs et tout ça, ça se construit. Donc je pense qu'effectivement, le ministère n'est pas adapté pour gérer ces problématiques spécifiques du sport dans les fédérations. Par contre, les politiques publiques, c'est autre chose. Ils ont leur place tout à fait.
Claude Onesta dans le Super Moscato Show.
Ça fait un peu Kremlin tout ça quand même. Ces ministères, tout ça, c'est quand même très très communiste.
Ouais,
ah ouais, moi je supporte pas. L'État sont de l'État et de l'État, ça supporte pas parce qu'il y a toujours qui paye à la tombée.
Ça m'étonne pas que tu sois parti à New York pour les vacances, c'est toi. Tu t'es rapproché de
la maison mère.
De notre Dieu, c'est pas celui de l'État.
J'ai ma casquette. Par contre, j'ai un problème, je vous entends pas parce que avec les écouteurs, j'ai ma casquette MAGA, j'arrive pas à mettre mes écouteurs dessus.
Alors, pour ceux qui se sont régalés des JO, il y a un chapitre qui est très savoureux sur les cas individuels. Tu racontes en quelques lignes, hein, Antoine Dupont, Teddy Riner, Florent Manaudou, Léon Marchand. Donc ça, allez-y, dévorez-le parce qu'on apprend des petites choses très sympas. Et puis, tu fais une référence à Kylian Mbappé, là je veux en savoir plus. Kylian Mbappé au JO, ça n'était qu'un effet d'annonce. Tu penses que ça n'a jamais été quelque chose de sérieux? C'est ce que tu sous-entends plus ou moins?
Non, mais j'en sais rien. Je sais pas, mais effectivement, on en a parlé. Avis, ouais. Lui-même en a parlé.
T'as jamais rien vu de concret, en tout cas.
Je me suis dit que si, avec la notoriété qu'il a, s'il avait voulu mettre dans son contrat qu'il était libre,
il aurait pu
le faire. Et je vois mal le Real Madrid qui le recrutait lui interdire de faire les jeux, à la mesure où en plus les Espagnols donc ça veut dire que si vraiment il avait voulu le faire, et c'est ce qu'a fait Antoine Dupont, il voulait le faire et tout a été organisé pour qu'il puisse le faire. Bon, je pense que pour quelles sont les raisons précises qui ont fait que Kylian Mbappé n'y est pas allé, j'en sais rien. Mais d'évidence, s'il avait vraiment voulu se battre pour y aller, il serait allé.
Allez, pour terminer,
tu te heurtes. Un petit cadeau. Tu te heurtes à des fédérations. Il y a des fédérations comme le judo, tout ça. Tu te heurtes avec eux parce que eux ont déjà réussi. Donc c'est difficile à toi de t'imposer là-dedans, non?
Non, mais j'ai pas voulu m'imposer. Les fédérations.
Si tu veux diriger, il faut t'imposer.
Non, mais j'avais pas à diriger à la place des dirigeants. J'avais juste à mettre, je dirais.
Tu t'es
route.
Battu avec Teddy Riner, mais ton raconte de nous, ça.
Non, je ne suis pas. Teddy Riner, je lui ai organisé une préparation que la fédération essayait de lui refuser. Donc, il voulait une préparation spécifique. La fédération disait non, l'organisation, elle est habituelle. Bon, et on a réussi, en discutant à trois, à trouver la bonne formule. Donc Teddy, je l'ai plus aidé. Par contre, quand Teddy dit des conneries sur un plateau de télévision...
Ça t'a pas plu qu'ils disent qu'on n'est pas un pays de sport?
Parce que c'est une connerie. Que tout soit pas résolu, c'est une chose. Mais moi, je le dis dans le livre, combien tous ces sportifs qui disent qu'on n'est pas une grande nation de sport... Combien leur a coûté depuis l'âge de 10 ans leur pratique sportive?
Tiens, regarde, on va te donner quelques chiffres pour donner une idée de ce qu'est le sport de haut niveau en France. C'est 15 000 athlètes sur les listes de haut niveau, donc qui ont un soutien de l'État. 5 000 seulement dans ces 15 000 qui sont sur les listes du ministère, c'est-à-dire des aides encore supérieures. Mais il y a aussi 7 000 athlètes qui sont dans des structures de haut niveau sans aucune aide et donc qui ne font pas partie de ces listes. Et donc, sur les cellules de performance, les 600 athlètes qui ont été identifiés comme des très forts potentiels, c'est ça qui a été finalement le, entre guillemets, l'élite de ceux qui ont préparé les Jeux Olympiques de Paris. Claude, merci beaucoup.